Oh my god. Ah ben voilà, on entend notre voix.
Oh oh.
Bonsoir chère auditrice, bonsoir chère auditeur, bonsoir Farida, Fred et Richard.
Bonsoir.
Enfin nous sommes au complet ce soir Farida, ravie que tu sois à nouveau parmi nous pour ce 44e volet de la Cité Métisse qui se veut dédiée à l'art. Nous avons le privilège, oui c'est bien le mot, de recevoir ce soir deux talentueuses artistes marseillaises. Louella Cole, artiste plasticienne, et Laurie, qui a choisi comme terrain de jeu le mobilier urbain afin d'officier en tant qu'artiste sous le blase de Laurier dans notre belle ville de Marseille. Bonsoir mesdames.
Bonsoir.
Salut.
Bonsoir
mesdames. Nous sommes ravis de vous recevoir toutes les deux ce soir en fait sur le plateau de Radio Galère. Encore merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Mais sans transition, j'adore en fait cette phrase. L'ami Richard et tout va se faire un plaisir de vous énoncer le programme de cette mensuelle.
Eh oui, ce soir elle est enfin présente pour ce live. Nous l'attendions très impatiemment parmi nous. Sa non moins talentueuse et depuis reconnue plume acérée de la Cité Métisse.
C'est trop mignon.
Viendra nous transporter aux origines du street art. Je parle bien entendu de notre chère Farida. Et enfin, la deuxième partie de notre émission sera entièrement dédiée aux univers artistiques de Louella, Cole et Laurie.
Bienvenue les amis, vous êtes sur la Cité Métisse, il est très exactement 20h passé de 4 minutes. Vous êtes avec Farida, Defray, Richard et Laurent pardon, sur Radio Galère 88.4 de la bande FM à Marseille. Donc comme d'habitude, on va enchaîner en fait avec un artiste, un très jeune artiste en fait de 18 ans, londonien prénommé Sekou. Il vient de sortir fraîchement le 12 mai dernier son premier single au titre évocateur intitulé Better Man, qui signifie homme meilleur en anglais. J'ai été saisi à la première écoute par ce magnifique titre et j'ai voulu partager avec vous la maturité et la beauté des paroles qui disent « J'ai du mal à me parler, je craignais de demander de l'aide, mais je sais juste ce que ça fait. La douleur me rappelle que c'était réel, je trouve cela difficile, comprendre, j'ai tout donné. » Sans aucun doute, j'ai pris ma décision, se lever, et puis j'ai pris ma décision pour être un meilleur homme, un homme meilleur. Inutile de pleurer sur le passé, il n'y a aucun moyen de le reprendre. Certains détails ne sont pas liés, j'ai dû apprendre à changer d'avis. Même quand la nuit est noire, je lève les yeux et compte les étoiles. Je trouve cela difficile, comprendre, j'ai tout donné. Sans aucun doute, j'ai pris ma décision, se lever, et puis j'ai pris ma décision pour être un meilleur homme, un homme meilleur. Je trouve cela difficile, comprendre, j'ai tout donné, sans aucun doute.
I find it hard to talk to myself. I was afraid to ask for help.
reminds me it was real. I find it hard to figure it out. I gave it my all without a doubt. I made my mind up to rise up and then made my crying about the past. There's no way to take it back. Some loose ends, they don't get tied. I had to learn to change my mind. Even when I find it hard to figure it out. I gave it my all without a doubt. I made my mind up to rise up and then I made my mind up to be a better man.
Bonjour à tous, vous êtes bien avec Andrea Caparros et Émile Mélenchon. Nous écoutons tous les premiers lundis du mois les ondes FM, Internet et DAB+ de Radio Galère, la Cité Métisse, avec Séverine, Richard, Fred et Laurent. Au plaisir de vous y retrouver.
Merci ma main de frais pour ce magnifique titre donc, de Sekou Betterman. Donc j'ai fait exprès effectivement de mettre ce titre en préambule de l'émission.
Très beau. Pourquoi, Fred?
Ah, tu veux connaître la raison, Fred?
Oui, c'est très curieux.
Le mec, c'est... Non, parce qu'en fait, on a dit que c'était une émission qui était dédiée à l'art, au féminin et tout, etc. Donc on rend beaucoup d'hommage et tout à ces dames.
Yes.
Et je me suis dit, on peut rendre, on est la cité métisse, on peut rendre et tout hommage aux hommes. Aux hommes bons. Oui. Donc tu vois ce que je veux dire. Donc à un moment donné, ça suffit, quoi. Donc je voulais être, faire une ode ce soir parce qu'il y a plein d'hommes bons en fait dans ce plateau.
Oui, c'est vrai.
C'est pour ça qu'après je me suis dit, ce magnifique titre. Même toi, Farida, tu viens de me dire et toi en off, je te balance. Tu m'as dit et tout qu'il était magnifique ce titre. Et c'est pour ça que je fais exprès de traduire et tout en français.
C'est dégueulasse.
Mais non. Tu vois, en plus, c'est bien calculé tout ça. Tu vois, je t'ai fait une petite surprise.
Ah là, il est trop belle.
Ben écoute.
Non, il est magnifique ce titre. Il est magnifique.
Allez, bon, ben on va enchaîner.
Et voilà, on va enchaîner avec justement la chronique de Farida sur les origines du street art.
Yes.
Merci. Alors, nous recevons ce soir une amie qui m'est très chère. Pour moi, l'évocation de Laurie revêt beaucoup de choses. L'amitié, le soutien indéfectible et salvateur, une douce énergie solaire. Mais depuis quelques années, Laurie est également devenue une entrée atypique dans le monde particulier du street art, avec sa touche ô combien féminine, matinée de douceur provençale. Parlons donc de street art. Pour certains, le street art existerait depuis toujours et ses origines remonteraient à l'homme des cavernes. En effet, si l'on considère que le street art est un moyen d'expression visant à faire réagir, les peintures rupestres seraient les premiers pas de cet art. Mais on peut aussi penser à Pompéi, qui lors de son excavation a vu émerger des dizaines de graffitis de toute nature, électorales, obscènes, amicales, insultes, harangues diverses. Toutefois, le premier graffiti au sens strict du terme, à savoir celui qui est réalisé avec une bombe, est reconnu comme étant celui du fameux « Kilroy was here ». Son origine reste obscure. Désolée pour mon accent.
On t'excuse comme un chat.
N'est-ce pas ? L'une des théories serait celle d'un chef de sentier qui, lors de la Deuxième Guerre mondiale, dans une usine d'armement à Détroit, graffait les bombes de ce message. Le graphe se propage alors dans toute l'Europe. Il est exporté par les soldats américains. Staline aurait même demandé à son assistant qui était ce Kilroy. Mais c'est seulement 20 ans plus tard que le graffiti prend un vrai tournant. Non pas à New York comme on aurait pu le penser, mais à Philadelphie, dans les années 60. Et c'est une histoire d'amour, j'ai bien dit d'amour, hein, qui va lancer ce mouvement. En effet, un certain Conrad, qui est un grand timide et qui n'ose avouer son amour à sa dulcinée Cynthia, va graffer son slogan dans toutes les rues de Philadelphie, sur les murs, les bus, les trains et même les voitures de police. Conrad loves Cynthia. Tu le dirais mieux que moi ou pas ?
Meilleur accent. Vraiment, là, je suis bluffé, je ne sais pas quoi dire. Mais tu n'as pas besoin de me regarder dans les yeux comme ça en disant que c'est une histoire d'amour. Calme-toi, Farida.
Je me calme. Par erreur, en 1971, la presse le déclare mort. Pour montrer qu'ils ont tort, il va venir taguer les endroits les plus improbables qu'il soit. Un éléphant dans le zoo de sa ville et, non moins que rien, le jet privé des mythiques Jackson 5. Il crée ainsi un véritable engouement et des émules. Le graffiti wording devient aussi populaire et devient ainsi un mouvement à part entière. C'est en bravant les interdits que les premiers street artistes sont nés. C'est à New York, dans un contexte de bétonisation féroce et de densification des transports urbains, que le mouvement prend de l'ampleur. Les premiers crews émergent et viennent marquer leur territoire dans les ghettos à coups de graffiti. Le métro devient leur premier lieu d'expression. On y tague son pseudo et un numéro. Le pseudo est l'identité du graffeur et le numéro de sa rue. Le plus célèbre d'entre eux, Taki 183, car il habitait la 183e rue. Comme il est coutume en France, nous jouerons la carte de l'exception. En effet, autant dans les autres pays, le street art est perçu comme du vandalisme et est sévèrement réprimé, autant en France, sous l'ère Mitterrand, on voit le ministre de la Justice, Jacques Lang, défendre cet art. Alors que l'Assemblée parlementaire, on légifère en punissant d'amende et de prison toute inscription ou dessin réalisé. Toutefois, en 2009, ce paradoxe à la française prend encore plus de signification avec le procès dit « procès de Versailles ». Lors d'un immense coup de filet très bien préparé, la police arrête 56 graffeurs. La SNCF et la RATP réclament 1,8 million d'euros de dommages et intérêts. Et contre toute attente, la cour d'appel va reconnaître le droit d'expression libre et ainsi reconnaître la valeur artistique des graffitis. À New York, les artistes réprimés et refusant de vivre dans la clandestinité ouvrent les premières galeries de street art. Avec ces galeries d'art, c'est une vraie démocratisation du street art qui s'amorce. Accompagné de mastodontes comme Basquiat, puis Banksy, les invaders, cet art se perçoit alors non plus comme du vandalisme, mais comme étant frais, novateur, créatif. C'est ainsi que les collectionneurs vont commencer à affluer. Et cette reconnaissance du milieu de l'art va changer la donne, car les institutions vont modifier leur perception et commencent à faire des commandes, à consacrer des expositions, des musées à cet art. Le street art rentre dans les salles des ventes après un très long processus. Mais si ce marché reste encore très accessible, il génère de beaux bénéfices. En 2022, le prix des ventes a totalisé 2,7 milliards de dollars. Oh. est-il du street art à Marseille ? N'en déplaise à ses rivales, notre belle cité métisse est considérée comme la capitale française du street art. Devenue incontournable, elle fait même partie des 10 villes européennes à visiter pour le street art. C'est avec le sacre de 2013, où Marseille devient ville de la culture, que la mairie décide de soutenir la production de street art dans certains quartiers de la ville. L'objectif est de rendre la ville plus attractive, dynamique et de mettre en avant la singularité de la ville. C'est cette singularité street art qui rend Marseille instagrammable et donc attire les touristes. On dénombre plusieurs hauts lieux du street art à Marseille. Le premier, évidemment, c'est le cours Julien. Il est le plus connu. On peut le considérer comme une véritable galerie d'art à ciel ouvert. On y compte un graffiti tous les 300 mètres carrés. Et 90% des commerces sont tagués et ou graffés. Il s'agit d'une véritable identité artistique qui attire des milliers de touristes chaque année. Pourtant, côté commerçant, la perception reste encore très négative. Ils perçoivent ces œuvres comme une dégradation de leur espace privé, rendant insalubre leur quartier, leur ville. Idem pour le quartier du Panier, qui est un haut lieu du street art marseillais. La volumétrie des œuvres y est certes moins imposante que le Courjus. Une œuvre de street art tous les 1000 mètres carrés et seulement 10% des commerces sont tagués et ou graffés. Toutefois, pour les commerçants, ces fresques encadrées et commanditées sont considérées comme valorisantes et attractives pour le quartier. A contrario, cette marchandisation du street art est mal vécue par certains graffeurs du quartier qui voient une perte de la philosophie initiale du street art. Autre spot emblématique et singulier du street art à Marseille, la fameuse autoroute L2. Elle comptabilise une vingtaine de fresques. Ce projet s'est fait dans le cadre d'une quête de cohésion sociale entre institutions, écoles, universités et bien sûr le fameux acteur privé Bouygues. Là encore, même si le projet est globalement bien perçu par les institutions et le public, il n'en est pas de même avec les graffeurs qui voient une production contrôlée et normée par les financiers. Mais Marseille reste Marseille, une ville paradoxale où le street art reste un sujet ô combien sensible. D'un côté, on prend conscience que le street art attire un public de plus en plus large à la recherche d'expériences artistiques et urbaines uniques. On élabore donc des stratégies de valorisation de ce patrimoine urbain et artistique. Des visites guidées sont organisées par l'Office du tourisme. Des festivals street art sont commodités réunissant élus, commerçants, artistes. Mais de l'autre côté, ces mêmes institutions font repeindre ou font nettoyer à grands frais des pans entiers de murs tagués ou graffés. En conclusion, le street art n'est plus un phénomène marginal. Il devient un levier de pouvoir urbain, un outil de revalorisation de l'image de certains quartiers. Mais on peut s'interroger sur la notion de marchandisation du street art, qui, selon les puristes, enlève toute la philosophie du street art. Le caractère éphémère et illégal disparaît pour un programme contrôlé, aseptisé par les institutions, tant dans le contenu que dans le message délivré.
Pour cette chronique, donc c'est bien que tu parles de la L2 parce que justement j'avais presque ça au bout des lèvres et j'ai l'impression que en plus on le voit tous les jours en fait pour ceux qui circulent et tout effectivement sur cette voie. Et y a
on connaît par cœur.
Ouais non
par
mais il y a énormément d'artistes en fait qui ont pu se. Et moi ce que j'aime bien c'est vrai qu'on parle en fait beaucoup du street art et tout etc mais on parle pas des œuvres et tout qui sont gigantesques. Il y a pas mal des tout de fresques tu vois qui sont faits tout sur des bâtiments. Tu vas aux Arnavaux, à la Visitation et après il y a plein de projets et tout qui sont ici et des artistes qui sont pas très loin en fait d'ici. Et de la Friche au Courjus ou peu importe ailleurs.
Centre-ville, rue Langeron.
Comment ? Bon,
centre-ville, rue Langeron.
Non, mais ils font des fresques, effectivement, après, qui sont gigantesques.
C'est
ça. Tu vois
mais a priori, la plus grande, elle est sur la L2. Ouais. C'est la plus grande d'Europe et elle fait 4000 mètres carrés. Donc, d'accord. Quand même atypique
ouais, mais...
en soi.
Ouais, et même, il y avait un endroit, après, c'est plus le cas, mais même au marché aux puces, tu avais des hangars complets qui étaient recouverts. Ils avaient fait une galerie, en fait, qui s'appelait la galerie Je m'en rappelle parce que c'est Saint-Laurent. Donc voilà, je ne peux pas l'oublier.
Facile.
Et ils avaient fait une belle galerie. Et ouais. Après, je ne sais pas, est-ce que c'est le lieu, le manque effectivement de fréquentation. Donc après, ça a, possible, été, ouais. ça a été fermé et tout au public. Mais après, que j'avoue que c'est quelque chose après qui est très intéressant après dans notre ville.
Et c'est clair. Hein. Mais après, ce qui est intéressant, c'est ce paradoxe, mais qui est vraiment à la fois la française et à la fois la marseillaise. C'est d'un côté, on a envie de promouvoir le street art parce que ça fait ramener des touristes.
Oui,
et à la fois, on ne supporte pas ça. Quoi. Donc, il y a vraiment un combat. C'est une source de tension qui reste permanente et qui sera maintenue, à mon avis, pendant encore quelques années. Et puis, c'est pas plus mal parce qu'il y a des vraies valeurs dans le street art.
Après, peu importe le sujet, j'ai l'impression, oui. et tout, est-ce que tu peux fédérer tout 100% de gens? Non,
je
pas
pense
possible.
Pas, surtout après, autour de l'art. Surtout autour de l'art.
Bien sûr.
Doit
et regarde,
un sujet.
Un exemple et tout qui peut s'associer tout à ça, tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, le breakdance, il est rentré en fait au JO.
Tout à fait.
Il y a beaucoup de gens et tout qui ont dit, oh mon Dieu, c'est une abomination. Tu vois, en fait, il y a des jeunes qui ont dit, bon, ben, du moment en fait qu'on parle effectivement et tout de ton art, et même la danse en fait. Le breakdance et tout, etc. Il se retrouve, la semaine dernière, en fait, je t'ai dit que je suis allé voir et tout un spectacle de danse.
Vrai, ouais, ouais.
En fait, d'un chorégraphe et qui met en fait, le breakdance à la base, en fait, tu vois, en fait, de ses danseurs. Tu vois le spectacle, c'est aérien, c'est magnifique. Donc après, derrière, après, je pense que c'est quand même quelque chose et tout qui reste frais. Peut-être dans 10 ans, 20 ans et tout, après, on se posera plus la question.
Oui, et puis après, je pense que le principe de l'art, et ces dames, elles seront peut-être d'accord avec moi, le principe de l'art, c'est de faire parler et de faire réagir en bien, en mal. En tous les cas, à Marseille, il y a du terreau pour pouvoir discuter de l'art. Voilà.
Tout à fait. Très belle conclusion, Faria.
Originaire de l'Est de la Réunion, Ishan Mwenbe Rudi Dibart est né en 1998. Ce petit prodige n'a pas mis longtemps à percer. En effet, il grandit dans une famille d'artistes de renom. Son papa et son frère sillonnent alors l'île avec leur groupe Volcan. Il apprend d'abord à jouer de la guitare, puis fait son entrée au conservatoire de Saint-Benoît à l'âge de 8 ans. À 9 ans, il commence à chanter sous le nom de Tibart et fait un véritable carton en 2007 avec le titre « Fais rouler maman » écrit par son frère Toulou. L'album du même nom est vendu à plus de 12 000 exemplaires. Il lui permet d'enchaîner les scènes et de faire sa première tournée aux Seychelles. Après avoir sorti un autre opus et une tournée en métropole, hexagone plutôt, il devient Bart avec une image plus mature. Devenu auteur, compositeur, interprète, il sort son troisième album en 2013, Évolution. Il en sera de même tous les deux ans pour arriver à son album Petit Grand, sorti le 7 août 2020, qui marque la transition vers son nouvel univers musical inspiré des sonorités afrobeat. Nous allons vous faire découvrir sur son un extrait de cet album intitulé « Boom Boom » en featuring avec son compatriote Saint Unit.
Si on veut bien, m'y veut bien, à nous rigoler ensemble, ouais. Apprécier, c'est ça, nous veut pas de blême, bro. Je dis que je suis dans le studio de minuit à minuit. Une vie de Starboy original. Bosser, bosser dur, non, c'est pas fini. Tout ça, tu ne vois pas, tout ça, tu ne le sais pas. Faut taffer, taffer, gagner l'euro. Cassant l'euro ou le malheureux. Où les malheureux deviennent aveugles, donc on fume de l'air pour essayer de trouver une solution à cette vie de merde.
Oh my god.
Tous ces gens veulent profiter comme tous ces gens.
Oh my god.
Les traits cons, mais faut juste faire des choix intelligents. Apprendre à aimer, apprendre à détester. Chacun pour soi, chacun son destin, c'est vrai. Mais ensemble on va plus loin, tu le sais ça.
Oh, oh nana.
L'afrola y arrive, vous demande à où commence à couler. Bam bam, n'en a même pas le temps assise. Direct au rod des manières pour couler. Bam bam, si vous voulez bien, il veut bien à nous rigoler ensemble. Apprécier, c'est ça, nous veut pas de blême. Mais si vous rod, on va trouver. Trouver, bébé, 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 ça y trappe la tête. Ça y trappe la tête.
Bom bom d'acabit.
Comment il trappe la tête?
Bom bom, ah ouais. Hey, viens nous colle, viens nous fais ça bien. Mon pied fait boum boum, de si moins est bomba. Viens nous colle, côté bia, palace. Et si na bombo, kafrine nous la pala. Mais voilà le corps, il zigil fort. Les nice sont, même si ils sonnent faux. Salam aleik, améga va dans le froid. Fais mettre le son au BM ou Volvo.
L'afrola y arrive, vous demande à où commence à cogner. Bam bam, n'en a même pas le temps assise. Direct pour des cafrines pour coller. Bam bam.
somme. Yeah, ne fais pas de blême, mais si ou rode, ou va trouver. Trouver, bébé, 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 ça y trappe la tête.
Bom, bom, d'accord.
Comment il trappe la tête?
Bom, bom, d'accord.
Ça y trappe la tête.
Bom, bom, d'accord.
Comment il trappe la tête?
Bom, bom, ah ouais.
Bienvenue sur la Cité Métisse, vous êtes bien avec Farida, Richard, Fred, et Laurent sur Radio Galère, 88.4 de la bande FM à Marseille.
Merci Fredo. Donc c'était Bart featuring Saint Unit, bam bam, la réunion est là quoi.
Il est content.
Non, ils sont trop forts ces gens.
Et enfin, voici le temps fort de notre émission dédiée à nos artistes du jour, Louella, Cole et Laurie.
Merci Farida pour cette intro. Donc avant de commencer, mesdames, effectivement, après, puisque là on n'a pas l'habitude de recevoir après deux dames qui officient et tout dans le même art, on va essayer après vraiment pour découvrir votre univers de vous donner en fait chacune la parole, ok? Comme ça après on met à plat effectivement tout ça. Donc moi j'ai une première question. On va commencer en fait par Lou. Peux-tu s'il te plaît nous parler en fait de ton parcours artistique? Et de ce qui t'a poussé à devenir artiste plasticienne, donc art, car on a un peu préparé l'interview toi et moi, car à ce jour et tout, c'est bien ainsi en fait que tu te définis. On reviendra juste après en fait cette notion et tout d'artiste plasticienne, peintre, etc. pour nos auditeurs auditrices. Et après j'ai une deuxième question, donc dans la même en fait c'est mon fort. Donc qu'est-ce qui t'a attiré dans notre ville de Marseille et comment celle-ci influence-t-elle ta pratique artistique?
Ok, alors déjà, bonsoir à tous et à toutes.
Hello.
Bonsoir.
Donc, je suis Louella. La première question, c'était comment je suis devenue artiste. Donc déjà,
en
oui,
gros,
c'est
oui.
sûr, artiste, c'est un grand mot, en fait. Déjà, ouais. Il faut se considérer comme étant artiste. Ça, c'est un long travail. Je viens d'une famille, on va dire, de créateurs, chineurs, créateurs. Mon père était brocanteur, ma mère artiste peintre. Ma grand-mère a toujours créé aussi de ses mains, donc soit en couture, la déco, enfin tout ça. Donc j'ai grandi dans ce milieu-là. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me dire que c'était possible d'en faire mon métier. Déjà au début, on va dire qu'on dessine, on fait des petites sculptures, voilà. Et puis en fait, un jour, à 26 ans, après avoir fait plein de boulot, on va dire alimentaire, enfin hein, disons qu'il ne me correspondait pas forcément,
ouais.
beaucoup pour ben, me nourrir et vivre. J'ai décidé de passer le concours des Beaux-Arts et c'est Marseille qui m'a donné ma chance. Donc c'était en 2011, il me semble.
Pourquoi tu avais tenté dans d'autres villes?
Dans d'autres écoles.
Ah oui.
Et ils m'ont dit que j'étais un peu trop vieille à cet âge, à 26 ans, pour commencer une école d'art.
Carrière.
Donc Marseille m'a donné ma chance. C'est une magnifique école qui est située dans les Calanques à Lumini.
En plus.
Ah oui.
Voilà.
Oui.
Et
à l'entrée de Sujiton.
Exactement.
Là.
Ouais, donc c'est vraiment un terrain de jeu propice à la création, à l'expérimentation. Il faut être motivé parce que elle est loin et puis il n'y a pas toujours du monde. Mais quand on se motive, c'est super chouette. Voilà. Donc ça, c'est un peu comment je suis arrivée là-dedans, on va dire. Et ensuite,
tu as répondu à la question.
Ah ben voilà.
Je t'expliquais, et toi, en gros, qu'est-ce qui t'a attiré, et toi, après, dans notre ville, et toi, etc. Donc, du coup, après, c'est le fait que tu fais ton cursus.
Exact, l'école.
Mais ce cursus, il est sur combien? Il est sur combien d'années?
5 ans.
Il est sur 5 ans?
Voilà. Enfin, 5 ans qu'on va jusqu'au bout.
D'accord.
C'est divisé, ouais.
Alors, j'ai planté, effectivement, et tout le décor, parce que nous, on en a parlé, en fait, tous les deux, un petit peu en amont. Tu te définis, et toi, en tant qu'artiste plasticienne.
Oui.
Alors, pour nos auditeurs et auditrices, vraiment, qui ne connaîtraient pas, en fait, ce milieu, qu'est-ce qui différencie l'artiste plasticienne de l'artiste peintre?
Disons que je ne vais pas avoir de médium de prédilection. Je peux faire de la peinture, je peux écrire, je peux faire de la sculpture. En fait, je peux mélanger.
Alors, excuse-moi de te couper.
Oui.
Il faut aussi, parce que là, en fait, j'avais une question et toi qui s'enchaîne, justement, c'est quoi un médium? Parce que ça aussi, en fait, c'est pas...
Oui, voilà.
Là, je l'ai découvert, je savais pas ce que c'était.
C'est un moyen.
Moi, je croyais que c'était une voyante ou un voyant,
oui.
Mais bon,
aussi,
à part ça,
aussi.
Tu vois, voilà.
Non, c'est un moyen, en fait,
dans le monde de la peinture.
C'est le moyen que tu as, en fait, pour créer, donc...
Pour exprimer ton art.
Pour t'exprimer. Voilà,
d'accord.
Donc il y a des artistes qui vont faire uniquement de la peinture, d'autres de la sculpture, d'autres de la vidéo. Et en fait, on va dire que plasticien. Ça regroupe un peu tous ces moyens, ces médiums. Tu peux faire tout à la fois ou alors un jour faire un peu de peinture. Enfin, là, en fait, tu touches à tout. Tu utilises ce qui est à ta portée pour exprimer ce que tu as envie d'exprimer. Quoi. Voilà,
d'accord.
En gros.
Donc toi, en fait, ça c'est toujours... Il n'y a pas eu, en fait, justement, entre guillemets, un médium de prédilection. Quand tu as commencé, effectivement, à exprimer tout ton art, tu t'es pas forcément et tout posé cette question. Tu as commencé par quoi ? Par peindre, faire de la poterie
Tu te poses toujours la question. Je veux dire, quand tu commences, notamment une école d'art, tu te cherches. Donc, tu t'essayes à plein de choses. Et en fait, moi, juste avec le temps, j'ai réalisé que ça me suffisait jamais. En fait, je suis toujours en demande d'expérimentation et de recherche. Pour moi, un travail, c'est difficile pour moi de me dire que ce travail est abouti. Donc, du coup, d'être tout le temps dans la recherche, ça t'amène à expérimenter d'autres façons, en fait. Donc, voilà, ça peut passer. Un jour, je vais me lever, je vais avoir envie de peindre, et le lendemain, mais du coup, sans les connaissances que peut avoir un peintre qui peint depuis 20 ans, c'est sûr.
Ouais,
j'ai pas, voilà, j'ai pas la même. Voilà.
Ok, merci à toi, je comprends mieux, du coup. Donc. Alors, je sais que peut-être c'est pas évident, puisque là, en fait, tu viens de nous décrire tout pas mal de choses, mais je vais te poser, en fait, quand même la question. Comment décrirais-tu en fait ton style artistique qui est pour toi effectivement après, qui est propre à toi, qui est unique ? Et quels sont les thèmes ou les idées en fait récurrentes dans tes œuvres ? Et y a-t-il des aspects spécifiques en fait de la région marseillaise en fait qui se reflètent et tout dans ton art ?
Alors, avec le temps, bon, donc du coup, comme je l'expliquais, j'ai une démarche où j'expérimente beaucoup.
Ouais.
Je réalise quand même qu'avec le temps, maintenant ça va faire. Donc j'ai eu mon diplôme en 2017. Donc, ça fait quelques années, du coup, j'en fais vraiment mon métier à part entière. J'ai quand même un attrait assez fort pour l'écriture, les mots notamment, on en parlera plus tard, et l'espace en fait, l'espace que j'habite. Donc, quand je vais peindre, on va dire, ça va être assez géométrique, coloré. Et on va dire que ça, c'est Marseille qui me donne ça. On est dans une grande ville, le soleil, on a beaucoup de lumière, on a la mer. Donc, inconsciemment ou consciemment, ça influe ma pratique de peinture, on va dire. Et après, les mots, c'est aussi les émotions qu'on vit dans une si grande ville. Moi qui viens en plus de la campagne et tout, c'est vrai que... Enfin, qui vient. Maintenant, ça fait plus de temps que je vis à Marseille que ce que j'ai vécu à la campagne. Mais on va dire que, bon, enfant, j'ai grandi à la campagne. Je trouve que vivre dans une grande ville comme ça, qui est ouverte sur le monde, où il y a beaucoup de passages, de dialogues qui se fait entre plein de cultures différentes.
C'est inspirant pour toi.
Voilà, c'est assez inspirant.
Mais quand tu dis les mots que tu peins ou les mots que tu écris ?
Les mots que j'écris.
Ah, d'accord.
Voilà, parce que j'ai deux pratiques vraiment qui ressortent par rapport aux autres.
D'accord.
C'est la peinture et l'écriture.
D'accord. Okay.
Voilà.
Oui.
En format poème ou en format roman ?
Alors, j'ai écrit des poèmes, mais que je ne publie pas parce que je suis trop timide. Mais par contre, non, j'écris, là, bon, on en reparlera, mais j'ai écrit un dictionnaire depuis quelques années.
C'était
pas mal.
Et donc, je m'amuse avec les mots. Voilà.
Ok.
Oui, on va en parler, en fait, un peu plus tard. Et tu t'es rendu compte, effectivement, et tout, de cet attrait du fait et tout que tu sois, et toi, à Marseille, au niveau, en fait, de ta création et tout artistique. C'est là que tu as vu en fait l'évolution au niveau des couleurs, au niveau de, je sais pas, de la chaleur et tout de la ville, et tout, etc. Ça, pour toi, c'est c'est assez flagrant.
Oui. En fait, quand j'ai commencé les beaux-arts, beaucoup de gens m'ont dit tu devrais monter à Paris, c'est là-bas que tout se passe pour faire ta carrière d'artiste à Marseille. Bon, c'était il y a donc 10 ans, enfin hein, plus de 10. C'est ouais. Enfin, j'ai commencé en 2011, tu vois, donc c'est on m'a dit Paris. Et en fait, pour moi, c'est plus important d'être dans un lieu que j'aime, qui me nourrit spirituellement, dans lequel je me sente bien, au niveau de ma création.
Ouais,
et Marseille, dès que je suis arrivée, je me suis sentie chez moi. J'ai beaucoup bougé dans ma vie, j'ai été beaucoup baladée d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre.
D'accord.
Et en fait, Marseille, c'est vraiment une ville dans laquelle je me suis un peu enracinée, en fait.
Moi, je comprends.
Et donc, du coup, ça me permet... Enfin, en effet, cette ville... Je ne me verrais pas à Paris dans un tout petit lieu de vie parce que je suis bien à Marseille, je vais au bord de l'eau, je respire, je rentre à l'atelier.
Oui, tu as trouvé un lieu et tout qui est propre à ta création, en fait, tout simplement.
Je préfère avoir un bon lieu de vie et que ce soit un peu plus galère, la route soit un peu plus difficile, on va dire.
Nous aussi, je t'assure, nous aussi. Ouais. On préfère être au soleil qu'à Paris.
Voilà.
Non, puis Marseille, c'est une terre d'accueil, moi, je trouve que c'est...
Elle est ouverte sur le monde, vraiment.
Ouais,
elle
complètement, c'est le monde. On est d'accord.
Bienvenue sur la Cité Métis, il est très exactement 20h36. Vous êtes bien avec Farida, Laurent, Defray et Richard sur Radio Galère 88.4 de la bande FM à Marseille.
On va faire une petite pause musicale les amis avec une artiste qui s'appelle Kaji. Donc elle est née en fait sur l'île de Santiago dans la ville de Praia au Cap Vert. Entourée de musique et de grandes femmes qui ont défini et façonné sa personnalité. Fille de Terenziao Aureo, chanteuse du groupe Cimantera. Elle a grandi aux côtés de personnalités de la musique traditionnelle capverdienne, telles que Tete Aligno et Mario Lucho. Elle débute dans la musique à l'adolescence, remportant des concours musicaux de jeunes chanteurs. À l'âge adulte, elle se consacre à sa formation musicale et inclut volontairement dans son parcours le Brésil et les USA avec les passages par la Wesley University au Connecticut et la Berklee College of Music à Boston. Nous allons vous faire découvrir ce soir le titre « Tamina ». Extrait de son dernier album paru en 2022 intitulé Lume Nera. Let's go DJ.
Hola, c'est Patti de la Cumbia Chicharra. J'écoute la Cité Métis avec Richard, Defray et Laurent sur Radio Galère 88.4 de la bande FM Marseille.
Merci Defray, on était avec Kaji et avec son morceau Tamina, magnifique morceau. Donc là, on va enchaîner effectivement et toi avec Laurie, parce que comme je vous l'ai dit, on va essayer de switcher effectivement et tout d'une dame et tout à l'autre. Donc, alors oui, effectivement, après à la base, effectivement, quand on s'intéresse à l'univers de Laurie, on serait tenté et tout à dire et tout que ce serait une street artiste parce qu'elle officie et tout dans la rue, donc on va voir et tout avec elle. Mais je souhaite faire et tout une rectification. On va rester en fait sur un terme plus générique en termes artistiques. Donc c'est pour ça, en fait, moi, ce qui m'intéressait dans un premier temps, c'est comment et quand as-tu commencé à t'intéresser, on va dire, à l'art plutôt qu'en fait au street art, plutôt que de faire en fait quelque chose de généraliste.
Ok. Bonsoir. Du coup, moi, par rapport à l'art, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée depuis petite. Je pense que je suis de nature très observatrice. Mmh. Je suis assez sensible à tout ce qui est visuel. Et du coup, que ce soit voilà, en tant qu'observatrice ou dans un deuxième temps, commencer à faire des petits dessins, de la peinture, tester, comme le disait Lou, plusieurs médiums, du coup, un petit peu plus jeune, c'est ce qui m'a poussée vers le côté créatif et artistique. Depuis toute jeune. Et puis un peu plus tard, je m'y suis mise un petit peu plus sérieusement. Et c'est ce qui est venu naturellement, le plus naturellement chez moi, c'est le dessin, en fait.
Ouais.
Notamment au stylo à l'encre noire, à la pointe fine noire, et l'aspect plutôt dessin, illustration.
Oui.
Donc c'est à partir de ce vecteur-là que j'ai touché un petit peu plus directement à l'aspect créatif, en tout cas pour commencer.
Alors moi, ce qui m'intéresse, Laurie, c'est est-ce que tu te rappelles effectivement, et toi étant gamine, ton plus lointain souvenir où justement tu commençais à griffonner, est-ce que c'était en fait sur les bancs d'école, est-ce que tu te rappelles effectivement et tout ce moment-là où tu as commencé en fait à coucher, sous quelle forme en fait se coucher et tous tes premiers dessins? Est-ce que déjà, et tout, c'était des formes effectivement qui correspondaient à des animaux ou à des formes et tout particulières, ou c'était plutôt quelque chose d'abstrait, on va dire?
Ouais, voilà.
J'allais dire des gribouilles, mais
ça y ressemble, ça peut y ressembler.
Tu vas éviter.
C'est trop tard, j'ai dit, moi.
Non, non, mais arrête.
Non, mais c'est pour ça. Mais elle avait quoi, 7-8 ans?
Mais on a tous gribouillé dans notre vie. Hein.
Ben oui,
à l'école. Hein. Oui.
On est tous artistes.
Non, mais j'ai rectifié, j'ai dit quelque chose d'abstrait. Voilà. Alors voyons.
C'est trop tard.
Oui. Alors on peut, c'est tout à fait. J'ai pas commencé en faisant des animaux particulièrement.
Ouais, voilà. Moi, c'est plus ça qui
m'intéressait. Très détaillés. Depuis toute jeune, alors oui, peut-être 8-10 ans, et j'ai toujours eu naturellement le mouvement du stylo qui allait vers des spirales, des volutes, ce genre de petits, oui, on peut dire gribouillis, un petit peu arrondis, légers, fluides. Et donc, c'est comme ça que j'ai développé ma technique de volutes, de spirales, qui s'ajoutent les unes aux autres jusqu'à former des motifs, on va dire. Mmh. Et puis, c'est un petit peu plus tard qu'à partir de ces motifs, j'ai décidé de créer des formes, des éléments qui pouvaient les contenir et jouer justement avec différents aspects graphiques et donc, pourquoi pas, dessiner des animaux.
Alors voilà, justement, c'est intéressant et tout que tu parles de ça parce que... quand on va, effectivement, après, quand on écoute ton univers, on va sur les différents réseaux sociaux, bon, on en parlera plus tard... Bien entendu, on énumérera tout ça en fait en fin d'émission. On voit que l'ensemble effectivement de tes œuvres sont portées effectivement vers la faune marine, puisque tu fais effectivement les tout différents collages et tout, etc. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui t'a amené justement en fait à te diriger et tout vers cette justement en fait cette faune marine?
Oui, alors je pense qu'il y a deux choses. Il y a donc cette technique que j'ai développée de spirale, de volute. Mmh. J'ai commencé à essayer de l'adapter à des animaux. Et le premier animal qui m'est venu, c'est le poulpe, justement, par rapport à ses tentacules, qui étaient comme une prolongation de mes dessins, très fluide, très arrondi. Mmh. Et en même temps, je pense que j'ai été attirée par le poulpe et les animaux marins, parce que en tant que Marseillaise, j'ai accès à la mer, je m'intéresse à la faune marine.
Oui.
Et je pense que oui, c'est directement lié à ma ville aussi, tous ces éléments et ces animaux marins.
Oui, parce qu'en fait, moi, quand on regarde, bon, tu nous as envoyé effectivement et tout, le dessin et tout d'un requin. Et après, à l'intérieur et tout, toutes ces volutes que tu parles, j'ai l'impression et tout que ça faisait des formes de vagues.
Aussi.
Donc ça, je me suis dit, après, il y a un lien entre la mer, les vagues, la faune marine et tout, etc. Bon, après, il y a beaucoup de choses et tout qui se tiennent, quoi.
Mais après, tu fais beaucoup de faune marine et tu fais pas que ça, en fait. Puisque moi, j'ai vu d'autres œuvres, lions qui étaient magnifiques.
Il y a des taureaux, après.
Vraiment de tout,
ça.
Quoi.
Ça a commencé, en effet, avec la faune marine, puis ça s'est développé selon les inspirations.
Oui, c'est vrai.
Oui, tout à fait.
Alors, là, maintenant, en fait... peut-être désolé, hein, je suis là pour ça. Moi, je suis un néophyte. Hein, je mets les pieds dans le plat. Là, en fait, on parlait en fait tout à l'heure d'artistes, de street art. Pourquoi on dit street art? Parce que ton terrain de jeu, justement, après, c'est la rue. Donc toi, tu fais des collages, effectivement, et tout dans la rue. Le mobilier urbain, voilà, pour être plus précis, tout, etc. Donc, est-ce que toi, en fait, tu as des influences, en fait, par rapport et tout, justement, et toi, à ce milieu-là?
Oui. Alors, c'est vrai que voilà, pour passer du côté dessin à la rue, en fait, j'ai découvert et redécouvert il y a quelques années ce qu'on appelle le collage urbain. Donc, ouais. c'est le fait de, à partir d'un dessin que je peux faire chez moi, par exemple, le fait de prendre le dessin, le découper et puis d'aller le coller dans la rue et pouvoir jouer de cette manière-là avec les éléments urbains. Donc, c'est vrai que voilà, c'est une deuxième lecture à mon dessin. C'est un process qui va un petit peu plus loin que l'illustration pure. Mmh. Et en effet, j'ai été inspirée de ce côté-là par d'autres artistes ou ce que j'ai pu voir justement en observant les villes, par le graffiti. Donc il y a déjà cet aspect-là qui m'a toujours plu. Et puis par la représentation, soit animale, soit des petits collages ou choses que je peux voir dans la rue. Il y a notamment Kraken, par exemple, qui peint des poulpes. On en a quelques-uns à Marseille. Exactement. Donc, c'est des très grands formats. Mmh. Moi, je suis plutôt sur du format moyen, voire petit, qui est dans le détail. Lui, c'est vrai qu'il peint des poulpes assez impressionnants donc sur les murs, que ce soit à Marseille, Paris ou autre.
D'accord.
Il y a d'autres techniques que j'apprécie beaucoup dans la rue, notamment celle du pochoir. Et là, on a un collectif qui s'appelle Monkey Bird qui aussi fait de la représentation animale sous forme de pochoir.
D'accord.
Voilà, il y a Jordan Sager qui travaille à la craie, qui crée des lignes aussi sur différents éléments. Ça peut être sur le trottoir ou sur du mobilier urbain. Et en effet, oui, c'est des artistes que je trouve assez inspirants, tous avec leur univers très, très personnalisé.
Et t'as fait du pochoir, toi, aussi, non?
Jamais. J'ai jamais fait de pochoir. Okay. Moi, je fais juste du collage. Et là, depuis peu, je commence à dessiner directement sur les murs, au marqueur. Et c'est encore une autre technique.
Mais Lou, au début de ta carrière, t'as fait des collages, toi, aussi, non? T'as fait quelques collages?
À plusieurs reprises, oui, ouais. Je suis allée coller en ville, j'adore, ouais. Sur le Prado, 50 mètres, je colle des mots, moi, beaucoup.
Ouais, voilà, c'est ça.
Oui.
Ouais.
Je colle des définitions, ou sinon j'avais fait aussi, j'avais distribué 400 flyers, où c'était juste après le confinement, où je proposais une nouvelle définition du mot liberté, et les passants devaient choisir en fait la définition qu'ils préféraient, quoi. Mais parmi les quatre, il y en avait des salés, quoi.
Et du coup, t'es retournée voir si elles étaient toujours présentes?
Ah non, la ville les enlève. Les enlève très vite, ouais. Oui, ah oui, ouais, bien sûr. Alors, quand tu colles, t'as... Bon, j'ai jamais eu d'amende, mais en règle générale, moi, j'avais collé à même sur le Prado, directement, tout mon dictionnaire sur 50 mètres. Le lendemain, ça a été décollé par les nettoies, quoi, au Karcher. Mais c'est pas grave.
Ouais, c'est plus facile, en fait.
Mais l'idée aussi du street art, c'est
le côté éphémère.
Oui. Voilà, c'est le côté éphémère. C'est on propose quelque chose. Enfin, moi, personnellement, je signe pas. Enfin, je propose quelque chose et c'est enlevé. C'est une manière de résister un peu. Donc, c'est rigolo aussi.
Bah, t'as les collages féministes aussi qui sont dans ce
principe-là. Oui, bah, ils sont souvent décollés aussi.
Ouais, exactement. Ouais, ça va vite. Hein.
Mais moi, par rapport au collage de Laurie, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont pas mal conservés, mine de rien. Et dans notre quartier, parce que nous, on habite côté 5 avenue Longchamp, ils viennent. Alors, tu parlais de mobilier urbain. Et aujourd'hui, il y a pas mal de collages de Laurie qui ont persisté, que les commerçants ont gardé ou la ville a gardé, parce qu'ils sont vraiment jolis pour la peine. Et du coup, maintenant, pour moi, mon quartier, notre quartier, il est vraiment marqué d'un point de vue mobilier urbain par tes collages, quoi. Donc, on les cherche dans la rue. Je trouve ça super sympa, en fait.
Après, ce qu'il faut comprendre et tout, c'est que les gens, je pense qu'ils sont pas... Le public et tout, il n'est pas contre, en fait, à embellir et tout la ville. C'est peut-être pour ça que cela et tout, ils restent. Après, pour eux et tout, ça leur parle pas. Tu vois, un tag où j'ai vu des jeunes et tout la dernière fois qui montaient à 3 mètres de haut pour répondre à une inscription... Enfin, il y a que ça parlait tout qu'à eux, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais la base de du street art, c'était ça, c'était le défi. Oui, c'était les endroits les plus improbables. Oui, donc eux, ils répondent à leur philosophie initiale. c'est le débat de tout à l'heure, c'est est-ce que oui, tu es dans ce truc-là ou est-ce que tu vas sur quelque chose de commandité, de plus aseptisé, quoi. Après, les goûts, les couleurs, ça...
Ouais, tout évolue en 2023.
En tout cas, voilà, moi, ce que je trouve sympa, c'est par rapport à tes collages à toi, Laurie, mm-hmm. c'est ce côté où, du coup, moi, le mobilier urbain de mon quartier, de 5 mm-hmm. avenue Longchamp, il est associé au collage de Laurie maintenant.
Ouais.
Et ça, je trouve ça... Et je pense que tous les enfants, quand ils vont à l'école, oui. ils tombent sur tes collages, et ben voilà, ça les marque.
Ils font des chasses au trésor, des fois, j'en croise dans la rue, qui essaient de repérer le maximum de poissons. Enfin,
c'est rigolo,
c'est assez drôle.
C'est rigolo.
Ça crée de vraies interactions. Ouais, ouais.
Ah, et moi, je trouve ça génial, en tous les cas. Voilà. C'est bon ?
Ouais.
Allez, je reprends la parole. Léa Choureux, c'est une jeune artiste montante, originaire de Saint-Denis de la Réunion. Âgée seulement de 21 ans, Léa Choureux devient un véritable phénomène de la musique locale et a connu par la suite un véritable succès. Elle a été aperçue sur les réseaux sociaux grâce à ses covers. L'été dernier, son clip « Laisse-toi aller » a cumulé plus de 15 millions de vues sur YouTube. Elle devient une vraie idole incontournable pour toute une génération à La Réunion. Elle va nous interpréter ce soir « Mon péché » avec la célèbre Lisanaïs Jean.
Difficile de résister. Et quand tu penses à moi, tu as des idées. Mais c'est plus fort que nous, on ne peut l'éviter. On ne peut l'éviter.
C'était Métis, Radio Galère, sur le 88.4 de la bande FM à Marseille.
Merci de frais. Donc c'était Léa Choureux, featuring Lisanaïs Jean avec Mon Péché. Donc on va enchaîner avec d'autres questions pour Lou. Alors pourrais-tu s'il te plaît nous parler en fait de ton processus de création ? Je sais que c'est compliqué après peut-être à définir pour les néophytes, le commun du mortel. Et j'ai une autre question après dans la foulée. En fait, c'est comment commences-tu une nouvelle œuvre et comment évolue-t-elle au fil du temps ? Ça m'intéresse énormément.
Alors, au niveau du processus créatif, donc déjà, bon, j'ai un atelier. J'ai la chance d'avoir un atelier pour une artiste parce qu'on n'a pas tous cette chance-là. Il y a beaucoup d'artistes déjà qui produisent.
Il est où ? Il se trouve où ?
Voilà, il est dans le 6e, à Vauban, sous Notre-Dame de la Garde. Ah, on a créé un super lieu avec mon conjoint, un lieu un peu hybride où on travaille tous les deux. Donc déjà, voilà, j'ai cette chance-là d'avoir un lieu où je peux aller quand je veux, à l'heure que je veux, y passer le temps que je veux, me reposer, de créer. Voilà, c'est une énorme chance.
Ensuite, comment je commence une œuvre? Donc déjà, à savoir, je ne sais pas trop le matin, quand je commence une nouvelle, on va dire. Hein. Je ne sais pas le matin sur quoi je vais me pencher. Ça va beaucoup dépendre de mon état émotionnel, on va dire.
Génial.
Je travaille beaucoup à l'émotion, c'est-à-dire qu'il y a des jours, je suis dans le spleen, je préfère écrire. Il y a des jours où j'ai une belle énergie et je vais préférer peindre de la couleur, peindre ce qui m'inspire.
Donc, mais, en fait, mais du coup, tu as plusieurs œuvres en parallèle, alors tu peux en avoir
souvent,
plusieurs.
Exact. Souvent, je travaille sur plusieurs œuvres et des fois, même pendant un mois, je ne fais rien. C'est genre le calme plat et c'est assez stressant parce que quand tu vis de ça, tu as des creux. Il faut savoir, être artiste, ce n'est pas la commande. Tu ne te lèves pas le matin, l'inspiration. Voilà. Donc, j'arrive à l'atelier. Si, admettons, je décide de peindre, je vais m'inspirer de ce que je ressens. En ce moment, mon corps évolue beaucoup, admettons. Donc, je vais travailler sur la notion de corps dans l'espace. Ou alors, par exemple, pendant le confinement, j'ai beaucoup travaillé sur la géométrie. J'ai fait beaucoup en fait, je représentais la ville avec plein de couleurs et tout parce que j'avais besoin de fenêtres solaires, en fait, dans mon environnement.
Ah oui, oui.
Voilà. Donc, je créais des tableaux. C'était des fenêtres ouvertes sur la mer.
Pour t'échapper, quoi.
Pour m'échapper. Donc, voilà. Donc, j'arrive à l'atelier et... en fait, c'est très dur pour moi de me dire cette œuvre est finie, c'est-à-dire que de la signer, de se dire ok, elle est achevée, c'est très compliqué. Donc j'ai beaucoup d'œuvres en fait qui sont inachevées et que je repeins parce que, comme je disais, selon mon émotion, si un matin j'arrive à l'atelier et qu'en fait je suis en train de bosser sur une œuvre depuis un mois mais qu'elle ne me convient pas, je la recouvre entièrement. Voilà, je ne cherche plus à comprendre, je recouvre.
Les repentir.
Ouais, donc en fait, souvent, sous mes peintures, il y a 4-5 toiles en dessous, quoi.
Ah,
4-5
moi, je t'avoue, quand tu m'as parlé de ça et tout, j'étais vraiment néophyte là-dessus, je savais pas du tout. Moi, je pensais qu'il y avait une inspi, tu couches ta toile et puis après, basta, quoi.
Bah, c'est comme ce qu'on parlait la dernière fois, comme un musicien, quand il commence un morceau,
il va
avancer dans le temps, peut-être il va bosser dessus pendant 2 mois, 6 mois, 1 an. Et en fait, au bout de 1 an, ça n'aura plus rien à voir avec les prémices du morceau, en fait.
Moi, je sais que les grandes œuvres de grands peintres, de Léonard de Vinci, en n'importe quel, ils se sont rendus compte en les traitant, tu sais, avec du toit, etc. On appelle ça des repentirs, en fait.
Exact.
C'est le mot exact qu'on leur donne. C'est-à-dire que tu recouvres une œuvre parce qu'elle te plaît plus.
C'est ça.
Et on leur donne un nom à ce phénomène. Ça, on l'appelle le repentir de l'artiste, en fait.
Le repentir.
Voilà. Et je trouve ça fou, moi.
Mais ça fait du bien, en fait, de passer à autre chose, de se dire
génial.
Ok, je me permets de d'effacer pour prendre une nouvelle tournure,
ouais,
quoi.
Bien sûr.
Au lieu de stocker. Voilà.
Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, en fait, là, toi, pour toi, ça fait partie de ton univers, mais nous, on n'est pas en tant que public, néophyte.
Après, il y a d'autres peintres qui font différemment, hein, qui préfèrent avoir toutes les toiles et tous les...
Bien sûr, ils sont plus carrés, quoi.
Est-ce que tu as le sentiment, quand tu décides que c'est fini, que c'est libératoire, ou c'est comme un bébé que t'abandonnes?
Non, c'est assez libératoire, mais j'avoue vraiment que pour moi, c'est très rarement fini. Quand même.
Voilà.
C'est trop dur.
En fait, avoir
une satisfaction de son propre travail.
C'est plus la satisfaction.
Ouais, c'est compliqué de se dire ok, là, c'est achevé, ça veut dire que j'en suis fière et que je peux la. Voilà. Bon, après, maintenant, je suis obligée. Il faut bien qu'elle parte. Hein, donc. Donc je finis par la signer, voilà. Mais par exemple, à l'atelier, toutes les toiles qui sont exposées sur les murs, il n'y en a aucune qui est signée. On me fait souvent la réflexion, pourquoi tes toiles ne sont pas signées? Parce que pour moi, elles ne sont pas finies encore.
Tu sais que le Caravage ne signait jamais une de ces toiles, probablement pour les mêmes raisons que soi.
Peut-être.
Et toi, Laurie, tu as ça aussi, ce phénomène de se dire, c'est pas fini et...
Non, c'est vrai que autant j'y passe beaucoup de temps, je suis très dans le détail quand je dessine, mais par contre, une fois que c'est terminé, je suis super contente de clôturer le sujet. Ah,
d'accord,
oui.
Donc c'est des démarches différentes quand même. C'est rigolo.
Alors moi j'avais une question, puisque là je pense qu'en fait tu nous as répondu et tout en partie, puisque tu t'expérimentes et tout effectivement avec différents médiums, mais est-ce qu'il y a effectivement en fait une matière pour toi et tout qui est plus parlante en fait que... ou une technique particulière, effectivement, après, au niveau de l'expression de l'art, qui est plus expressive pour toi ou plus intéressante pour toi? Parce que là, en fait, tu nous disais tout à l'heure que tu te lèves le matin et puis après, j'ai envie de peindre, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire là. Voilà, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est peut-être plus... qui t'intéresse plus au niveau de la poterie, au niveau en fait d'autres médiums?
En ce moment, c'est vrai que c'est beaucoup la peinture, mais c'est plutôt des questions d'espace, je pense. Lorsque j'avais l'atelier aux Beaux-Arts, j'avais 6 mètres sous plafond, c'était immense. Et là, je faisais de la sculpture et des installations assez volumineuses que j'ai pu exposer dans des parcs. Donc en fait, c'est beaucoup une question d'espace. Si on est chez soi, qu'on crée chez soi, on va avoir tendance à faire des plus petits formats et on va se sentir plus à l'aise sur ce format.
D'accord.
Moi, là, à l'atelier, c'est vrai que mon atelier n'est ni petit ni grand. Donc en fait le format toile et peinture et collage, on va dire, me correspond bien en ce moment. Après il y a toujours des envies quand même d'aller dans la rue, justement. Ça revient parce qu'en fait il y a cette liberté d'aller dans la rue, en fait cet espace d'un coup qui nous est donné, qui est un peu en fait brut, et on peut...
C'est vrai.
Et ça, c'est assez côté... libératoire, en fait.
Ouais,
et en
le plus... côté un peu de transgression, non aussi.
Exact.
Ouais, voilà.
Mais c'est une forme de résistance à fond.
Ouais, bien sûr.
Et le fait
liberté.
De liberté. Voilà. Donc...
Le mot.
On revient
que tu
sur
aimes
la
bien.
Liberté.
Bah, oui, c'est vrai.
Que tu chéris.
C'est important. Ouais. Donc voilà. En ce moment, je suis plus axée peinture. Et après, vraiment, quelque chose qui m'attirera, je pense, toujours, ce sont quand même les mots.
Oui, bien sûr.
Et
bien
les,
sûr.
On va en parler, l'écriture.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, Yuka, jeune artiste originaire de Seine-et-Marne, auteur, interprète, il arrive à s'exprimer dans plusieurs styles de musique, rap, pop urbaine, zouk, kizomba et bien d'autres. Oniro est le titre de son dernier album et Regretté, l'extrait que nous avons choisi de vous jouer ce soir avec un jeune artiste montant de la scène drill française que nous aimons tout particulièrement, prénommé Libro.
Dédé où quand je m'inquiétais, j'ai pris sur moi, j'ai encaissé. Quand t'as tenté de m'abaisser,
elle me bombarde d'appels FaceTime. J'ai capté le boy, elle essaye de rallumer le feu, de rattraper le time. Mais t'as dépassé la deadline, j'ai changé de life, j'ai changé d'avis, changé de page. Mais t'inquiète pas, je t'en veux hop. Non, je t'en veux hop. Non, je t'en veux à peu, mais me parle pas de après. Ouais, t'as bien capté, me parle pas de après. Y'a rien à rattraper, donc écoute et apprends. Arrête de me contacter, j'ai pas le temps. Tes projets d'avenir me met pas dedans. J'ai déjà trouvé une remplaçante. Et honnêtement, elle te lave dans
même
tous
si
les domaines.
Ciao, ciao. J'ai pas cédé. N'aidé où quand je m'inquiétais. J'ai pris sur moi, j'ai encaissé. Quand t'as tenté de m'abaisser. Même si tu m'appelles, j'ai pas cédé. N'aidé où quand je m'inquiétais. J'ai pris sur moi, j'ai encaissé. Quand t'as tenté de t'as préféré fuir, partir, dommage, t'as trop vite laissé tomber. C'est fini, fin de la partie, fallait réfléchir. Et alors, même si t'es fraîche ou clean, j'serais insensible si tu déshabilles. Et alors, n'insiste pas, c'est fini, tu m'as dégoûté. Même si tu m'appelles, j'ai pas cédé. N'aidé où quand j'm'inquiétais. J'ai pris sur moi, j'ai encaissé. Quand t'as tenté de m'abaisser. Même si tu m'appelles, j'ai pas cédé. Et j'ai pris sur moi, j'ai encaissé. Quand t'as tenté de m'en apaiser.
Même si tu m'appelles, je vais pas céder. Et j'ai pris sur moi, j'ai encaissé.
Même si tu m'appelles, j'ai pas cédé. N'aidé où quand je m'inquiétais. J'ai pris sur moi, j'ai encaissé. Quand t'as tenté de m'abaisser. Même si tu m'appelles, j'ai pas cédé. T'étais où quand je m'inquiétais. J'ai pris sur moi, j'ai encaissé. Quand t'as tenté de m'abaisser.
Salut à toutes et à tous. Vous êtes bien avec Cédou Dramé. J'écoute La Cité Métisse avec Richard Defray et Laurent sur la radio Galère 88.4 de la bande FM à Marseille.
Merci Fred, donc on était avec Yuka en featuring avec Libro et le morceau et tout s'intitule Regretté. Donc là on va revenir effectivement et tout sur Laurie. Donc peux-tu s'il te plaît en fait nous parler des messages ou des thèmes que tu souhaites véhiculer à travers en fait ton art?
Oui, alors moi vraiment quand je colle dans la rue mes dessins, mes voilà mes illustrations, c'est plus dans une démarche que je dirais poétique.
D'accord.
Dans une démarche voilà artistique. Ce qui me plaît c'est le fait que ce soit de l'art, du visuel accessible à tous. Mmh. Il y a quelque chose de cet aspect-là. Et puis, voilà, je peux pas, honnêtement, hein, je ne peux pas dire qu'il y a un vrai message engagé ou quoi que ce soit. C'est plus pour... quand on me dit ça, enfin, tes dessins me donnent le sourire quand je les vois dans la rue, me donnent envie d'aller travailler, ou les enfants qui les cherchent en allant à l'école et qui sont contents du coup de se lever pour les voir. Je crois que j'ai réussi la chose en faisant ça. Mmh. Donc voilà, il y a un côté spontané dans ce que je fais, et la ville c'est devenu comme un terrain de jeu pour moi.
Alors moi j'ai une question effectivement après qui tout à fait, on va dire, naïve, parce que quand on voit effectivement tout ton personnage et tout, etc., après, de par... moi, je me dis, effectivement, en fait, tu as choisi en fait, un terrain, tu sais, justement, en fait, qui est un petit peu particulier, la rue, parce que là, en fait, depuis tout à l'heure et tout, on en parle comme si c'était quelque chose de on va dire, de banal, effectivement, après, de signer des œuvres et tout dans la rue. Mais comment toi, en fait, tu es confronté, toi, en tant qu'artiste, justement, et soit à cet aspect de street artiste? Je vais développer en fait un petit peu plus. Je veux dire, comment gères-tu en fait les questions liées à la légalité, à l'environnement urbain, d'accord, ou à l'acceptation de ton art et tout par le public? Parce que comme on le disait, tu vois, Farida en fait l'a très bien expliqué dans sa chronique, il y a quelque chose et tout de transgressif dans la rue et tout, etc. La légalité, pas la légalité. Toi, justement, tu as un aspect poétique, tu vas embellir effectivement l'espace urbain. Mm-hmm. Voilà, il y a toutes ces questions-là et tout. Je me disais, il y a un paradoxe, tu vois, pour moi
tout
en fait.
Tout à fait. Oui, c'est vrai. Alors. Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Ouais. Déjà, une des motivations et on va dire entre guillemets un soutien que je peux avoir qui est très positif, ce sont les passants dans la rue. Ouais. La plupart du temps, ils peuvent avoir un air un peu interrogatif, ils peuvent se demander ce que je fais. Et en général, le dialogue se crée très vite avec les passants dans la rue et ils adhèrent plutôt bien à la démarche.
D'accord.
J'ai énormément de commentaires positifs. Ça ouvre vraiment un dialogue sur, voilà, sur l'art de rue, sur l'embellissement de la ville aussi. Il faut savoir que ma démarche, elle est vraiment dans un but d'améliorer un endroit et à l'inverse, pas du tout de le dégrader. Au contraire, je choisis vraiment bien les endroits dans lesquels je colle. Mmh. Et je n'irai pas coller sur une jolie façade ou à un endroit qui peut abîmer. Mmh. Du coup, du côté des passants, c'est vraiment des retours très positifs. En effet, après, c'est quelque chose qui est illégal. Hein, c'est associé à du collage, de l'affichage. Ouais. C'est pas quelque chose qui...
C'est punissable par la loi. En
exactement.
Oui, en plus, je pense que toi, tu n'officies pas à minuit ou dans la nuit, et tout, etc. Tu vas peut-être la journée et puis après...
Alors,
non,
j'ai commencé à faire ça le soir avec ma capuche un peu cachée. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas
ça
forcément nécessaire. C'est ça, en fait. Au contraire, c'est encore plus suspect de faire dans cette
démarche-là.
Du coup, j'y vais vraiment à la cool avec mes papiers, ma colle.
Génial.
Et alors oui, j'ai déjà croisé la police.
Oui,
sur la canebière. Okay. Bon, ils étaient un petit peu surpris de la démarche. Et malgré tout, on a engagé un dialogue. Et puis, ils ont quand même... essayer de comprendre un petit peu.
Ah, ils t'ont laissé faire ?
Oui, ils m'ont laissé faire. Ils m'ont dit en toute discrétion, ne dis pas que tu nous as croisés.
Oh,
mais c'est quand même très joli et c'est vrai que ça reste une démarche assez sympa. Le fait que ce soit, attention, hein, dans mon cas, du papier, de la colle, il y a quelque chose qui passe peut-être un petit peu mieux qu'une bombe de graffiti.
Après, il y a aussi le paradoxe Laurier, j'arrive jamais à dire ton nom d'artiste, Laurier. C'est que bon, on la voit pas, mais Laurier, elle fait petite cadre, blonde, toute mignonnette.
C'est ce que je voulais exprimer tout à l'heure.
Ouais. Oui, ça casse un peu le côté vandale qu'on peut
avoir. Street, tu vois ce que je veux dire.
Il y a ce paradoxe qui, moi, m'a fasciné dès le début. Quoi. C'est vraiment le paradoxe de cette petite nénette toute propre sur elle, si je puis dire, avec le côté un peu rebelle. Et du coup, je pense que les policiers qui t'ont croisé, ils n'ont pas dû comprendre non plus ce qui se passait. Quoi. Et donc, dans le doute, ils ont dit, bon, laisse passer. Quoi. Donc,
En fait, tu te dis, ça passe mieux. Quoi.
Eh oui, clairement. Ah, mais oui.
Tu vois,
oui,
en fait,
c'est
ça,
évident.
Ça passe mieux.
Ah,
et peut-être ça peut amener des gens qui étaient réfractaires, justement, et toi, ce style de, tu vois, entre guillemets, d'art, en disant, bon, ben là, OK, après, qu'on valide complètement le truc.
Et en plus, je pense que si ça avait été toi en capuche, ça passait moins bien.
Même normal. normal, sans capuche, c'est mort.
N'est-ce pas?
Je prends un de ces poulpes, un de ces requins, ils vont me dire ah non, demi-tour droite.
On va essayer, on va essayer.
Non, mais je peux pas lutter, je sais très bien.
Non, c'est clair. Mais voilà, j'adore ce paradoxe, justement.
C'est vrai, il y a un contraste.
Ouais, moi j'adore ça. Je trouve ça fascinant, en fait.
Ok. Donc on va faire une petite musicale les amis, donc c'est avec un chanteur néerlandais, donc j'aime beaucoup en fait, d'origine marocaine. Walid a sorti un clip en compagnie de Salim, plus connu sous le nom et tout de scène Kravata. Yanari est sorti le 5 mai dernier et affiche déjà près d'un million de vues sur YouTube. Let's go.
إلا جرحتك أنا وليلي وليلي نموت عليك أنا يا ناري داني زينك وداني الهوى يا ناري ملي رحتي قلبي تقوى يا ناري انتي الطبيب وانتي الدواء يا ناري ممكن نشوفك انسى الفوا باقيني ولا صافي سجينك اها انت يا مخليني وانا دايرك في عيني في قلبي فوضى انا وليلي وليلي نموت عليك انا يا ناري داني زينك وداني الهوى يا ناري ملي رحتي قلبي تقوى يا ناري انت الطبيب وانت الدواء يا ناري ممكن نشوفك انسى الفوا اوكي غطانا اوكي غلطت معك انا كي ننسينا ليش نهمتي وانا في قلبي فوضى فوضى يا ناري داني زينك وداني الهوى يا ناري من اللي رحتي قلبي تقوى يا ناري انت الطبيب وانت الدواء يا ناري ممكن نشوفك انسى الفوا
Bienvenue sur la Cité Métisse. Vous êtes bien avec Farida, Richard. Ed Lorenz sur Radio Galère 88,4 de la bande FM à Marseille.
Toujours en cité métisse. Donc il est très exactement donc 21h12. Nous sommes bien sûr avec une belle équipe ce soir. Franchement, moi je vous félicite, bravo. Faut que j'applaudisse.
Merci.
Eh oui, quand même. Eh oui, évidemment. Ben il y a du lourd hein, ce soir. Il y a Lou. Il y a Laurier, artiste. Eh oui. Ben, il y a Farida aussi. Hein.
Oui.
Voilà, respect hein, toujours là. Gaïa, Johan, Magali, Sheila et Mamène, Nico. Voilà, Richard, Laurent et moi-même, Defray sur Radio Galère 88.4 de la bande FM à Marseille.
Merci, Mamène. Donc là, on était avec Walid Yanari en featuring avec Kravata. Donc, on va enchaîner. Bon, j'ai un peu peut-être en fait une idée et toute la réponse en fait avec une question et tout pour Lou. C'est comment ton travail artistique a-t-il évolué au fil du temps? Comment toi tu ressens effectivement en fait cette évolution au niveau de ton travail artistique?
Bah, j'ai été influencée par mes études évidemment.
Ouais.
Parce que quand tu connais l'histoire de l'art, ça influence forcément la manière dont tu crées. Quand tu fais une école d'art, mes voyages ont beaucoup influencé aussi ma création, je pense, ma maman. Et mes inspirations, voilà, comme je disais tout à l'heure à Farida, j'aime beaucoup les surréalistes. Alors, on ne va pas rentrer dans cette thématique-là parce que c'est un peu compliqué.
Non, tu vas perdre des gens, là.
Mais je pense qu'en fait, on a des maîtres, hein, évidemment. Tout bien peut sûr nous inspirer dans la vie. Donc il faut juste savoir ouvrir les yeux, regarder autour de soi, ne pas avoir peur de se dire je vais pas le faire parce que ça a déjà été fait, parce que quoi qu'il arrive, quand on le fait, ce sera différent. Parce
oui,
qu'on va le faire avec
ta vision à toi.
Voilà, avec notre patte. Donc comment il a évolué avec l'âge, en ayant une fille, en étant à Marseille. J'ai fait des grandes installations, de la sculpture, de l'écriture. comme je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup une question d'espace, de quel espace tu as fait évoluer ton travail, quoi.
Alors, il y a un truc qu'on a commencé un peu à en parler tout à l'heure. Donc là, maintenant, en fait, on va rentrer un petit peu dans le détail parce que c'est ton côté à toi artistique, justement, qui s'adonne un petit peu à ça est très intéressant. Donc, en me penchant, en fait, sur ton univers artistique, j'ai pu me rendre compte que les mots, donc c'est M-O-T-S, hein, ont une place prépondérante. On peut dire, en fait, que tu as une fascination pour redéfinir ces derniers à la mode. Moi, j'ai dit ça, en fait, Louella. Donc j'ai envie de dire, et je dois t'avouer en fait que c'est quelque chose et tout qui a été très captivant et tout pour moi, notamment lorsqu'on s'arrête en fait sur le mot amour, qui selon Lou est une altération qui mène à la ruine. Donc rien que ça, ou encore le mot liberté.
Alors,
je vais te laisser la parole, après oui, tu pourras développer. Ou encore le mot liberté, qui est toujours selon Lou une impulsion à aimer. Donc il y en a plein d'autres en fait, comme celle-là. J'ai eu la chance en fait de lire le tome 1 intitulé Le dictionnaire du sensible. Tout un programme. D'où te vient en fait cet attrait en fait pour les mots?
Alors, l'attrait pour les mots, je pense que quand on voyage beaucoup, quand on est un peu... disons que j'ai vécu dans les îles, j'ai dû apprendre plusieurs langues d'un coup. Après, quand je suis revenue en France, j'avais 18 ans, il a fallu que je me réadapte au langage français, à mes études, voilà. Donc déjà, en fait, réussir à communiquer et à se faire comprendre, ça a été un peu un challenge. Pour moi, petite, plus grande, ado, et maintenant parce que il faut toujours parler en tant qu'artiste de son travail, toujours expliquer, et c'est un exercice très difficile en fait de parler de soi tout le temps, d'expliquer en fait sa démarche. Enfin, c'est pas si facile en fait, parce que nous-mêmes des fois on n'a pas le recul nécessaire pour parler de notre production en fait. Oui, des fois on peut produire quelque chose et réussir à en parler des mois plus tard ou peut-être un an plus tard, parce qu'en fait bon. Donc à partir de là en fait, je me suis posée. Toujours pendant mes études, en fait, je me suis dit, mais qui définit les mots? En fait, comment ça se passe? Je veux dire, nous, on nous parle d'habitat ici, par exemple. Je prends l'exemple du mot habitat. En France, l'habitat, c'est notre maison et tout. Ben, dans certains peuples, l'habitat, c'est là où est ton cœur ou une plage. Enfin, je veux dire, les mots ont une résonance différente selon notre culture, notre éducation. Bon, quand j'ai défini le mot amour, c'est sûr que bon, c'était une période un peu plus sombre pour moi. Mais quand je dis altération profonde qui mène à la ruine, c'est pas forcément une ruine financière. Déjà, c'est aussi la ruine du corps, c'est la ruine des émotions. Enfin, je veux dire, véritable amour détruit, hein, je veux dire, peut détruire en tout cas, peut nous amener loin, mais jusqu'à la ruine des sentiments. Enfin voilà. Après,
on est d'accord avec toi. Hein. Ouais. Moi personnellement, hein, donc
l'avantage,
tout va bien,
l'avantage de mon dictionnaire. En fait,
c'est déprimant tous.
Non, elle est réaliste, c'est pour ça que j'aime beaucoup.
Non, mais je pense que tu vois, c'est un moment de ta vie, le mot il est mouvant du coup.
Exactement, maintenant
il est en perpétuelle évolution.
Exactement. En fait, juste j'ouvre, voilà, joue exactement.
C'est comme une œuvre, hein.
Le dictionnaire du sensible, il a changé plein de fois et il ne sera jamais achevé en fait. C'est pour ça que j'ai fait un tome 1 et qu'il y aura bientôt un tome 2 et j'espère plein de tomes, parce qu'en fait les mots selon notre expérience et ce qu'on vit en fait changent tout le temps.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Donc c'est super chouette de pouvoir les redéfinir sans cesse, et c'est encore une manière de résister en fait, de dire OK, moi vous me proposez ça dans le dictionnaire, mais je suis pas trop d'accord avec vous, j'ai plus envie de parler des émotions et de ce qu'on ressent. Donc je propose une autre version. Une autre définition.
Ben écoute, j'aime beaucoup et tout ta définition. Donc après, c'est vrai que tu disais Farida, c'est négatif, mais après,
c'est pas que ce soit négatif, c'est, parlant, c'est que quoi. Ça correspond à une période de ta vie où tu as vécu quelque chose de douloureux amoureusement. Demain, ça sera autre chose. Et c'est ça qui est beau.
D'ailleurs, le mot amour a une nouvelle définition, parce qu'on m'a beaucoup demandé sur les réseaux. Ah oui, mais moi, elle me convient pas. Et en fait, la deuxième définition, c'est principe spirituel animant le corps.
Ah ben voilà.
L'amour anime le corps. Donc évidemment que ça, c'est en éternelle mouvance.
Non, c'est clair, c'est clair.
Donc les amis, on va pas enchaîner effectivement et toi avec une pause musicale, cher ami Richard, puisque là en fait l'heure tourne, on est déjà quasiment et toi à 20, donc on va re-switcher effectivement, bon, j'aime pas trop ce terme, c'est pas joli, hein, donc sur Laurie. Donc Laurie, si je peux me permettre, en fait, peux-tu nous parler en fait d'un projet ou d'une œuvre particulièrement marquante que tu as réalisée en lien justement et toi avec le monde marin ou peu importe après, tu vois, la thématique, récemment?
Oui, alors moi, il y a un projet qui m'a particulièrement marqué.
Oui.
C'est en fait un projet que j'ai fait avec une école.
Oui.
Donc, il y a un an ou deux, j'avais collé un grand hippocampe, un dessin grand format, dans la ville d'Orléans. J'étais de passage par là-bas et très rapidement, j'ai été contactée par une école qui m'a demandé si je pouvais animer des ateliers avec les enfants.
D'accord.
Et en fait, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. C'était assez nouveau pour moi et ça a été une très, très belle expérience parce que c'est un projet qui s'est réalisé en deux temps avec donc tout le personnel éducatif et les élèves de cette école dans la banlieue d'Orléans. Et donc, pendant une semaine, je suis intervenue au niveau de cinq classes.
Ouais.
On a travaillé dans un premier temps sur toute la partie dessin, graphisme, aquarelle. Avec les élèves.
Mmh.
Et puis, un petit peu plus tard, je suis retournée dans cette école et on a fait du collage sur le mur de l'école de leurs dessins, justement.
Ah ouais.
Donc, c'était quelque chose de vraiment touchant pour moi de voir tous ces élèves qui se prêtent au jeu et du dessin et du graphisme.
Mmh.
Et puis, une grande fierté pour eux ensuite de pouvoir coller leur dessin, que voilà, leurs camarades, les parents de l'école, les passants puissent voir ces dessins-là.
Mmh.
Et j'ai beaucoup aimé ce projet.
Excuse-moi de te couper, mais à la base, c'est qui avait vu en fait ton premier dessin? C'est un prof, une prof?
Oui, tout à fait, c'est une prof. C'est une prof, oui, qui a été très sensible. Alors, Orléans, c'est pas une ville très... réputé pour le street art, au contraire.
Ouais.
J'ai osé poser un collage, mais j'ai rien vu d'autre en termes d'art dans la rue.
D'accord.
Et je pense que justement, c'est ce qui a interpellé les passants et notamment cette prof, en effet.
Alors moi, il y a une question effectivement et tout qui m'intéresse, parce que là, on parlait effectivement d'œuvres éphémères. Est-ce que toi, en fait, tu te soucies par rapport à la durabilité justement en fait de tes œuvres? Est-ce que tu repasses effectivement et tout sur des lieux où tu as fait des collages, ou est-ce que c'est pas forcément et tout ton but? Tu te dis je vais remettre effectivement après derrière et tout des œuvres où tu poses en fait, où tu as envie de...
Alors j'essaie de bien choisir les endroits comme je disais pour éviter l'aspect dégradation de la ville. Après, non, c'est le jeu du street art, hein, comme on disait, c'est éphémère, c'est quelque chose, voilà, l'œuvre elle va vivre dans la rue, elle peut être arrachée, il y a des intempéries, elle peut être abîmée. Elle peut être, voilà, comme on disait aussi, hein, repeinte par les agents de la ville. Ça, je trouve ça un petit peu dommage, mais c'est le jeu aussi. Et puis,
ouais.
J'ai des œuvres qui tiennent quelques heures, d'autres qui sont là depuis 2-3 ans.
Ah ouais.
Et c'est très aléatoire. Et non, je trouve ça chouette. Puis des fois, je retombe sur un petit dessin que j'avais complètement oublié et ça fait plaisir. Et, c'est un petit peu le jeu.
Ok, donc maintenant en fait, puisqu'on est quasiment à la fin de l'émission, donc on va pas alterner effectivement avec des pauses musicales, on n'a pas le temps. Je vais passer effectivement d'une artiste et tout à l'autre. Donc je vais revenir effectivement en fait sur Lou, parce qu'il y a une question effectivement qui m'intéresse. En fait, comment souhaites-tu que ton travail soit perçu ou ressenti par ton public?
Comme il l'est actuellement, c'est-à-dire qu'on me dit souvent que alors, il fait du bien. Pas à toi, Farida, le mot amour, mais...
Le reste, oui.
Mais non, mais tu as une définition numéro 2, donc
la
ça va. Farida, et toi, elle a viré, du coup.
Les gens me disent que les mots que je redéfinis font du bien, que c'est qu'il y a un aspect très sensible. En fait, j'amène beaucoup de sensibilité dans un univers, j'espère. Et c'est vraiment comme ça que je veux que ce soit perçu. Je veux dire, j'ai pas de connaissances plus que d'autres. Enfin, je veux juste... Je propose des choses et que ça fasse du bien. Donc, mes peintures, c'est vrai qu'elles sont géométriques et très colorées. On me dit souvent ça fait du bien de voir autant de couleurs. Ça égaye une journée, ça égaye un intérieur. C'est agréable. Et les mots, ça amène, en fait, juste un dialogue. Les gens qui ont pu... s'offrir une partie du dictionnaire parce que je fais pas mal d'affiches me disent que ça amène du dialogue au sein de dans la maison ou entre amis ou dans le couple ou même les enfants qui apprennent à lire.
Ouais.
En fait, ça amène des questionnements qui sont autres que ce qu'on peut apprendre à l'école, beaucoup sur les émotions. Moi, je travaille beaucoup avec les émotions, donc si c'est perçu comme ça, c'est très bien.
D'accord. Ok écoute,
voilà.
Merci en fait pour l'info. Donc j'ai une question effectivement après pour Laurie. Donc Alors là, en fait, on va essayer de rentrer dans quelque chose et tout de plus généraliste et tout vers la fin de l'émission. Là. Donc, quel rôle, en fait, penses-tu que le street art joue dans la société actuelle?
Alors, je pense qu'il y en a plusieurs, mais déjà, c'est un moyen d'expression. Comme ouais. je disais, c'est accessible à tous, autant pour les personnes qui ont envie de faire un petit collage, mettre éventuellement leur signature, faire un tag ou développer des idées plus engagées. Comme disait Farida aussi, hein, avec les collages féministes, où il y a des artistes qui sont vraiment engagés et qui véhiculent leur message à travers des œuvres de street art. Et donc, voilà, c'est aussi de l'art accessible à tous pour les passants qui osent un petit peu lever les yeux, qui regardent un petit peu la ville aussi avec une deuxième lecture peut-être. Donc voilà, il y a cet aspect très libre dans le street art, il y a le fait que ce soit gratuit, pas besoin de rentrer dans un musée ou d'avoir cette démarche-là que pas tout le monde n'a, et je peux le comprendre. Et juste en se baladant dans sa ville, dans des villes qu'on peut visiter, voilà, j'aime beaucoup ce côté accessible à tous et qui peut aussi créer des interactions.
Alors il y a un projet et tout effectivement que je trouve très intéressant dont tu vas participer, ce serait bien et tout d'en parler par rapport et tout à l'intercontinental. Donc on a préparé l'émission, tu m'en as parlé et tu as proposé un petit peu tes services à différents grands chefs. Donc tu peux nous parler un petit peu de cette collaboration et tout que tu as fait avec eux?
Oui, tout à fait. Donc comme tu disais, moi ce qui m'inspire c'est Marseille, l'univers marin. Donc j'ai travaillé avec le chef Lionel Lévy. Qui est donc le chef du restaurant Alcyone à l'Intercontinental. Et donc, on a travaillé ensemble sur les menus et les cartes de son restaurant. Et j'ai créé, suite à notre collaboration, donc, une quinzaine de dessins pour que chaque menu, chaque table ait un dessin différent sur sa carte. Donc voilà, on a créé ça ensemble. Et mes représentations des animaux de la mer se retrouvent sur chacune des tables. Donc ça, c'est le projet que j'ai fait avec l'Intercontinental l'année dernière. Et génial. Puis là, pour les 10 ans de l'Intercontinental, avec Lou, qui participe aussi au projet, on propose on va exposer nos créations pour l'événement, les 10 ans de l'Intercontinental, 10 artistes marseillais représentés.
Et
donc on sera présente à partir du 15 juin. Okay. Dans le hall de l'Intercontinental, c'est une exposition gratuite.
Oui, c'est le hasard qu'on soit toutes les deux là.
Ah, ouais. Génial.
C'est une exposition gratuite, accessible à tous à partir du 15 juin, donc avec d'autres artistes marseillais qui seront présents.
Non, mais toi, ta collab en fait avec eux, elle est un petit peu plus ancienne, non?
Non, moi c'était il y a 3 ans et Laurie il y a 1 an.
Ah, ok, d'accord.
C'est ça.
Ok, ben vous voyez.
Non, c'est. J'avais fait une résidence une semaine là-bas.
Ouais, génial. Ben écoutez, parfait.
Les artistes se retrouvent toujours, les gars. C'est ça.
Regarde-nous.
C'est ça. Si t'es métis, m'amène.
Le 15 juin, en tout cas, on le rappelle, comme ça, en plus, c'est proche. Hein, donc,
L'intercontinental.
Alors, j'ai une question et tout maintenant, en fait, pour Lou, c'est comment perçois-tu le paysage artistique de la région marseillaise? Ça, c'est quand même en fait un peu...
Pleine expansion.
Un peu important.
Ouais, depuis, comme disait Farida tout à l'heure, depuis Capitale de la Culture en 2013. Marseille a un peu explosé, a mis un peu plus de budget dans la culture, même si c'est vraiment pas encore ça. Mais il y a beaucoup de lieux qui se sont ouverts, comme Artagon, qui est un lieu où beaucoup d'artistes sont rassemblés, peuvent faire des résidences. Il y a la Bureau Police aussi qui s'est créé il y a quelques années, qui ont mis à disposition en fait pour les artistes des ateliers. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est super pour les artistes. Ça donne une ouverture. Marseille est un peu à la cote en ce moment, on va dire. Hein, donc du coup, on a de la visibilité. Il faut en profiter à fond. Il faut répondre à des appels à projets, montrer son travail à fond, faire du street art, faire de la musique. Là, c'est le moment. Là, on est sous les projecteurs, donc il faut que les artistes marseillais se réveillent à fond et y aillent.
On sent un véritable engouement pour Marseille.
J'espère que ton message effectivement aura porté ses fruits ce soir, quoi. Donc je vous remercie vraiment à toutes les deux parce que malheureusement là on est obligé de se quitter. Donc il est temps en fait pour nous de rendre l'antenne. Donc fidèles auditrices, fidèles auditeurs, merci à vous pour votre écoute et votre assiduité. Merci à celles et ceux et tout qui ont fait le déplacement et qui nous ont fait l'honneur de leur présence. Ce soir parmi nous il y avait Galia Il s'appelait Chama, sa copine, je ne m'en rappelle jamais
Amel.
De son prénom. Amel, ok. Johan, Magali, Nico, Sheila. Et je ne parle pas et tout de la team et tout de la cité métisse. Donc, remerciements spéciaux en fait à nos invités du jour, Louella et Laurie. Donc, merci à vous, mesdames, en fait, de nous avoir fait l'honneur de votre présence.
Merci.
Sur le
merci
plateau de la radio.
Vous,
pourriez-vous, s'il vous plaît, toutes les deux, pour notre chère auditrice, auditeur, en fait, nous rappeler vos réseaux, s'il vous plaît.
Oui, alors moi je suis présente sur Instagram et mon Insta c'est laurier, laurier comme la plante, point artiste.
Et moi c'est Louella Cole, donc L-O-U-E-2-L-A-C-O-2-L, tout attaché.
Ok, Facebook, Instagram.
Oui, voilà.
Ok, super. Parfait, ben, merci à vous. Alors je m'égare dans une enivrante monotonie et je déambule dans les terribles paysages. J'aime dans le noir ce silence d'éternité. Dans cette assourdissante solitude, mes rêves sanglants ont la couleur des larmes. Et c'est de Louella Cole.
C'est joli.
Je vous rappelle que la Cité Métisse est diffusée tous les premiers lundis du mois de 20h à 21h30 sur Radio Galère, 81.4 de la bande FM à Marseille, sur radiogalère.org et sur le canal 8C du DAB+. Restez connectés avec nous sur la page Facebook de la Cité Métisse et sur le Mixcloud de l'émission. mixcloud.com/lacitémétisse pour suivre l'intégralité de nos podcasts. N'hésitez pas à nous adresser vos commentaires et autres remarques en direct au 04 91 08 28 10 ou par courriel à lacitémétisse.radiogalère@gmail.com.
On vous donne rendez-vous les amis ce vendredi 9 juin à partir de 20h. Et oui, en fait, et non pas en fait pour le replay de cette émission, mais pour une nouvelle émission dédiée au Festival Africa Fête. On sera en compagnie de Miali, la directrice du festival, qui est notre voisine étoile à friche de la Belle de Mer, et qui viendra nous éclairer sur les artistes qui vont se produire durant les semaines 25-26, donc c'est en gros c'est du 17 et tout au 30 juin et tout à Marseille. Nous vous souhaitons, au nom de tous les collectifs de la Cité Métisse, une très belle soirée. Restez connectés sur les ondes de Radio Galère. Bye bye,
bye, bye.
Au revoir. Ciao.
Ciao, ciao.